RFI, les 5h30 à Kinshasa N'Djamena. Et une heure de moins en temps universel. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Alban, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, des avocats qui crient à l'injustice en République démocratique du Congo.
Ils défendent des jeunes condamnés à mort dans le cadre des opérations anti-Kuluna, ces gangs qui sèment la terreur à Kinshasa. Mais problème, selon l'avocat que vous entendrez dans quelques instants, certains de ces jeunes ne seraient pas membres de gangs. Trump 2, Trump le retour. Investiture officielle hier à Washington et des attentes autour du Somaliland, notamment région séparatiste de la Somalie. Un député américain a écrit à la nouvelle administration pour réclamer une reconnaissance sur la scène internationale. Du changement à la tête du FFKM, le Conseil œcuménique de Madagascar, c'est l'Église catholique qui prend les rênes pour un an, après s'être montré très critique ces derniers temps contre les dirigeants malgaches. Également au menu, une pétition pour réclamer la fin des violences contre les femmes au Tchad. Une mission du Fonds monétaire international qui se referme en Centrafrique, le marché du carburant au cœur du projet du FMI. Et puis l'actu sport, bien sûr, comme tous les jours. Soyez les bienvenus. Y a-t-il des injustices ? Y a-t-il des innocents parmi les jeunes récemment condamnés à mort en RDC ? C'est en tout cas ce qu'affirment des avocats après que les autorités ont mené ces derniers temps l'opération Zéro Kuluna Ndobo pour lutter contre les Kuluna, comme son nom l'indique, ces membres de gangs sans pitié de Kinshasa. Plus d'une centaine de condamnations à mort ont été prononcées en première instance, des prisonniers envoyés dans une prison de haute sécurité dans le nord-ouest du pays. Mais certains avocats affirment que tous les jeunes n'étaient pas membres de gangs. Un cas défrait notamment la chronique, celui d'un membre de la chorale d'une église évangélique, arrêté alors qu'il rentrait tard d'une répétition. Pour maître Frédéric Kouamba, membre de l'ONG Afiamama, c'est certain, ces procédures montrent des irrégularités.
Des civils ou des prévenus de droit commun sont jugés devant les juridictions militaires, y compris certains mineurs présumés. Nous avons également déploré la manière dont, et pour les raisons pour lesquelles notre client a été arrêté, c'est parce qu'il s'est promené la nuit en provenance d'une activité de son église. Le fait de les déplacer, personne ne peut relever appel. Et ceux qui ont relevé appel ne seront plus à mesure d'être présentés devant leur juge naturel qui siège à Kinshasa et non où ils se retrouvent en ces moments. Pour le cas de notre client, par exemple, Dieu merci Ndombasi, la personne elle-même se trouve en dehors de cette juridiction qui doit connaître de l'affaire en appel. Donc nous voulons que nos clients bénéficient de toutes les garanties pour éviter que certains innocents ne soient collés aux criminels. Et la précipitation qui a eu n'est plus la même lorsqu'ils relèvent appel. Nous sentons que rien n'avance, tout est arrêté, comme si déjà condamné à purger sa peine.
Et voilà l'avocat Frédéric Kouamba en RDC au micro de Pascal Moulégoua. America first, l'Amérique en premier, le credo réaffirmé de Donald Trump qui faisait hier son grand retour à la Maison-Blanche. Investi officiellement 47e président des États-Unis, il a clairement donné le ton lors de son discours sur la scène internationale. Il affirme vouloir être vu comme un faiseur de paix, tout en disant voulant reprendre le contrôle du canal de Panama. Mais son élection fait aujourd'hui naître des espoirs chez certains. Autour du Somaliland, par exemple, cette république autoproclamée ayant fait scission de la Somalie en 1991. Depuis, elle est toujours en quête de reconnaissance. Or, la semaine passée, un comité de la Chambre des représentants a justement écrit une lettre au département d'État à Washington pour demander l'ouverture d'une représentation à Hargeisa, Gaël Lalex.
La lettre provient du comité en charge des relations avec la Chine. Elle déroule plusieurs arguments pour justifier une représentation américaine à Hargeisa. D'abord, la position stratégique du Somaliland, juste à l'entrée du golfe d'Aden. S'y installer permettrait de garder un œil sur la base militaire chinoise située à Djibouti et de surveiller les rebelles yéménites Houthis qui sévissent en mer Rouge. Ensuite, le Somaliland entretient des relations étroites avec Taïwan, allié de longue date des États-Unis. Il serait un atout majeur pour endiguer l'influence chinoise dans la corne de l'Afrique. Au cours du premier mandat de Donald Trump, ses diplomates avaient déjà témoigné un intérêt pour Hargeisa. Il est aujourd'hui appuyé par certains think tanks comme le Hudson Institute et plusieurs parlementaires républicains. Le mois passé, le député Scott Perry a déposé une proposition de loi pour la reconnaissance du Somaliland. De son côté, le ministre des Affaires étrangères somalien prévient. Toute reconnaissance du Somaliland déstabiliserait la région en créant un danger. dangereux précédent. Gael Alex Nairobi, RFI.
C'est une exclusivité RFI. Saïf al-Islam Kadhafi sort de son silence dans un échange écrit avec la Radio du Monde. Le fils du colonel Muammar Kadhafi livre sa version de l'affaire du financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il affirme avoir supervisé lui-même la transmission de 5 millions de dollars en espèces à l'entourage de l'ancien chef de l'État français. Saïf al-Islam Kadhafi affirme aussi que le clan Sarkozy l'a approché à 3 reprises pour qu'il modifie sa déposition auprès des juges français dans cette affaire. En face, les avocats de Nicolas Sarkozy, eux, démentent ces accusations, les qualifiant de fantaisistes et opportunistes. Un nouveau visage pour les 4 grandes églises chrétiennes de Madagascar. Le Conseil œcuménique a en effet changé de représentant ce week-end dans le cadre de sa présidence tournante. C'est l'Église catholique et l'archevêque d'Antananarive qui dirigeront l'instance pour 1 an. Et voilà qui augure un changement de ton sur la grande île, Sarah Teto, car l'Église catholique s'est montrée très critique envers le pouvoir malgache depuis quelques mois.
Les paroles de Monseigneur Jean de Dieu Rawelson seront décortiquées. En toute logique, le prélat qui préside désormais le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes devrait suivre les instructions données par la Conférence épiscopale de Madagascar. Or, ces derniers mois, l'organe suprême des catholiques sur l'île a pris des positions très tranchées. Dans son dernier communiqué, les évêques ont pointé du doigt les manquements du régime, dont les problèmes d'eau et d'électricité qui ne sont pas résolus, écrivent-ils, après tant d'années, et qu'il qualifie de forme d'homicide indirect. Haro également contre ceux qui osent affirmer que le pays progresse. Existe-t-il des gens payés pour faire l'éloge des dirigeants tout en étant indifférents devant les souffrances du peuple, s'indignent les auteurs. Tout a une fin, préviennent-ils. Ces jours-ci, l'ordre a été donné aux laïcs catholiques de prendre leurs responsabilités. C'est le réveil de notre Église, se réjouit un pratiquant très engagé, heureux, affirme-t-il, d'entendre un discours sans ambiguïté. Si historiquement l'Église catholique malgache a toujours joué un rôle majeur durant les crises politiques, elle s'est faite plus discrète dans ses prises de position depuis une 15aine d'années. Ce revirement dans sa communication semble marquer une rupture avec le régime actuel. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Le nouveau code électoral du Gabon, adopté hier par les 2 chambres du Parlement. Une assemblée plénière était organisée pour cela à Libreville après un consensus dégagé sur le texte en commission mixte paritaire entre Assemblée nationale et Sénat. Un nouveau code électoral qui encadrera donc les élections attendues avant la fin août et censé mettre un terme à la transition débutée par le coup d'État contre Ali Bongo. Dire non aux violences faites aux femmes au Tchad, réclamer des actions concrètes des autorités. Voilà l'objectif d'une pétition internationale lancée ce week-end sur Internet. Face à des affaires qui se multiplient tristement au Tchad, on se souvient notamment d'un viol sur une jeune femme qui a fait polémique le soir du Nouvel An dans la capitale. Et encore en fin de semaine dernière, l'agression d'une lycéenne par un commandant de la police. Les auteurs de ce texte veulent donc mettre un terme à l'impunité des responsables, Olivier Monodi.
Cette pétition veut recueillir 1000 signatures en 30 jours pour exiger des autorités tchadiennes des actions contre les violences faites aux femmes. Rien qu'au début de ce mois de janvier, la Ligue tchadienne des droits de la femme dit avoir enregistré plus d'une 15aine de cas de féminicide et de viol avec des preuves. Le dernier cas est celui de la jeune femme poignardée de plusieurs coups de couteau ce dimanche dans la province du Logone oriental par son époux. Epiphanie Dionran est la présidente de la Ligue tchadienne des droits de la femme.
Bien que cette pétition nous permette de recueillir et de soutenir et de sensibiliser aussi la société, elle est aussi un moyen ou un outil de pression pour obliger les autorités à prendre des mesures concrètes. Et ce n'est qu'un début. Il faudra vraiment poursuivre les actions de plaidoyer, de mobilisation sur le terrain. La lutte, elle est longue, mais chaque action compte et nous rapproche de l'objectif.
Il faut criminaliser les violences sous toutes ses formes, insiste Pamela Badi, une des premières pétitionnaires.
D'énormes atrocités, et ce, souvent dans l'indifférence totale de nos autorités au niveau local. Il y a un travail de fond à faire, il faut accélérer les choses. Je suis convaincue qu'on va arriver à l'éveil des consciences.
Selon le PNUD, au Tchad, 1 femme sur 5 est déclarée victime de violences physiques et 12% subissent les violences sexuelles chaque année. Pendant ce temps, la Ligue tchadienne des droits de la femme rappelle avoir enregistré plus de 220 cas pour l'année 2024. Olivier Monodi, N'Djamena, RFI.
Une arrestation annoncée par le gouvernement de Centrafrique. L'arrestation au Cameroun du chef rebelle Armel Sayo. Il a été arrêté vendredi à l'aéroport de Douala. Il est maintenu en détention. Ancien chef rebelle accusé de violation des droits humains. Il avait été ministre sous la transition. Puis après les accords de Khartoum entre 2019 et 2021, il avait ensuite repris les armes, lancé un nouveau groupe rebelle l'an dernier, la coalition militaire du salut du peuple et de redressement. Il avait récemment menacé d'ailleurs de renverser le régime actuel à Bangui. Et si le gouvernement centrafricain n'apporte pas de précision sur les conditions de son arrestation, eh bien, il précise qu'il demandera l'extradition d'Armel Sayo. Mission refermée à Bangui et le Fonds monétaire international communique. Une délégation du FMI était dans la capitale centrafricaine du 9 au 16 janvier pour poursuivre le suivi des réformes dans le domaine de la gestion des finances publiques notamment. Le communiqué final note des progrès, Charlotte Cosset, mais les réformes du marché du carburant étaient également au cœur de ce déplacement.
Le FMI estime qu'un audit des coûts d'approvisionnement en carburant devrait contribuer fortement à la réforme des structures des prix. Objectif, améliorer la fiscalité pétrolière et envisager une baisse des prix à la pompe. Les prix des carburants en Centrafrique sont en effet les plus élevés de la région. Une demande d'audit, notamment liée à l'attribution en septembre 2023 de l'exclusivité de l'importation des produits pétroliers à l'entreprise camerounaise Neptune. Dans une note du 7 janvier, le ministre chargé du développement de l'énergie, Arthur Piri, justifie une nouvelle fois ce choix, d'abord par la nécessité de régler la question des pénuries récurrentes et d'autre part par le besoin d'augmenter la fiscalité pétrolière. L'année dernière, les quantités de super sur le marché ont augmenté de 150% et de moitié pour le gasoil, pointe le ministre. Cependant, la fiscalité pétrolière, elle n'a bondi que de 30%. Si le ministre explique ce manque à gagner, notamment par les exonérations fiscales accordées à la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, certains analystes mettent en cause la gestion du secteur et la capture du marché par certains acteurs.
Charlotte Cosset à Bangui, il est 5h bientôt 42, même heure ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
Restez avec nous, bien sûr, dans les prochaines minutes. Le deuxième volet de notre série de reportages auprès des réfugiés climatiques vivant le long du canal de Jonglei au Soudan du Sud. Le Togo va-t-il rejoindre l'AES, l'Alliance des